Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. L'ancien président tchèque Václav Havel a lancé une campagne de soutien à 3 prisonniers politiques détenus injustement. Prague a expulsé l'attaché militaire ukrainien. Le vice-premier ministre Radek Jan a remis sa démission au chef du gouvernement. L'ancien président tchèque Václav Havel a lancé ce mardi à Prague une campagne de l'ONG Amnesty International en faveur de 3 prisonniers détenus injustement. Il s'agit du juriste syrien Mouanat Hassani, de l'iranienne Sakine Ashtiani et du journaliste chinois Shitao. L'ONG revendique leur libération. L'ex-président lui-même ayant été soutenu par Amnesty International lors de son emprisonnement à la fin des années 70, a lancé cette campagne de signature dans son bureau pragois. Il a tenu à souligner l'importance de l'aide aux personnes persécutées pour leurs opinions. « Je me souviens que les sympathies de l'étranger ont été très encourageantes pour nous », a dit Václav Havel à cette occasion. Hospitalisé en mars dernier pour inflammation des voies respiratoires, Václav Havel poursuit sa convalescence. La République tchèque a expulsé l'attaché militaire de l'ambassade d'Ukraine en République tchèque en réaction à la récente expulsion de 2 diplomates tchèques de Kiev. L'information a été confirmée par le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Ce dernier a exprimé l'espoir de voir ainsi le conflit réglé. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg, a pourtant annoncé sans donner de précision qu'il envisageait des démarches supplémentaires. Rappelons que Kiev avait expulsé vendredi dernier l'attaché de défense et l'attaché militaire de l'ambassade tchèque soupçonné d'espionnage par les autorités ukrainiennes. La diplomatie tchèque estime que cette affaire constitue une riposte à la récente décision de Prague d'accorder l'asile politique à l'ex-ministre ukrainien de l'économie Bogdan Danilichin. Radek Jan a remis au chef du gouvernement Petr Nečas sa démission du poste de vice-premier ministre chargé de lutte contre la corruption. Chef du parti gouvernemental Affaires publiques et ancien ministre de l'Intérieur, Radek Jan a renoncé à sa fonction la semaine dernière en expliquant qu'il ne parvenait pas à se mettre d'accord avec Petr Nečas sur le fonctionnement de l'Office de lutte contre la corruption. Sa démission doit encore être acceptée par le président Václav Klaus qui effectue actuellement une visite d'État en Azerbaïdjan. Le futur fonctionnement de la coalition gouvernementale sera discuté au Conseil des ministres mercredi. Comme annoncé à l'issue d'une rencontre ce mardi entre le président des affaires publiques Radek Jan et le vice-président du Parti civique démocrate Pavel Drobel, les deux partis sont prêts à poursuivre leur collaboration au sein de la coalition gouvernementale et préparer des réformes. Radek Jan a tout de même conditionné le soutien du gouvernement lors du vote de confiance prévu pour le mois de juin par le départ des ministres cités dans des affaires de corruption. C'est par un concert des élèves des écoles de musique et des villes de Chotěboš et de Humpolec qu'a commencé ce mardi à Jihlava dans la région de Vysočina la 10e édition du Festival international de musique Mahler Jihlava 2011. Le festival met à l'honneur le compositeur Gustav Mahler, originaire de cette région et dont nous célébrons le 100e anniversaire de la mort. Ce mardi soir, le festival accueille la Philharmonie de Brno qui interprète l'adagio de la 10e symphonie inachevée de Mahler. Lors du concert de clôture, le 20 juin prochain, les jeunes musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Boston joueront sa 9e symphonie en ré majeur. Expositions et conférences consacrées à Gustav Mahler sont également à l'affiche du festival. Côté météo, mercredi, jour de la fête des Natacha en République tchèque, le temps sera ensoleillé avec des nuages épars. Les températures seront agréables entre 21 et 25 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. La suite du programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord un anniversaire, il y a 60 ans de cela était en effet créé à Prague un centre de désintoxication pour alcooliques, à l'époque unique en son genre dans le monde. Nous entendrons pour quelles raisons dans quelques instants. Il sera également question de culture avec la nomination du nouveau directeur de la Galerie Nationale de Prague, un peu paradoxalement c'est un économiste qui a été nommé, et puis la seconde partie de notre programme du jour sera consacrée à la signature d'un accord franco-tchèque de partenariat dans le domaine de la recherche. recherche, un accord qui consiste à renforcer les liens entre les chercheurs des deux pays. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une très bonne écoute à toutes et à tous. Il y a 60 ans de cela, en mai 1951, était ouvert à l'hôpital Apollinage de Prague le premier centre de désintoxication pour alcooliques en Tchécoslovaquie. Créé par le psychiatre Jaroslav Skala, spécialiste de la prévention et du traitement de la dépendance à l'alcool, ce centre, unique en son genre à l'époque dans le monde et réputé pour la dureté des méthodes de soins employées, a rapidement été copié avec succès ailleurs dans le monde. Pour donner une idée des méthodes draconiennes prônées par le docteur Skala, terreur des alcooliques, les Tchèques aiment à raconter l'anecdote selon laquelle les patients passés par le centre de désintoxication ne pouvaient plus ensuite se rendre à la montagne ni même voir une quelconque paroi ou rocher sous peine d'avoir envie de vomir. En tchèque, en effet, le mot skala signifie roche, rocher. Or, les séances de vomissement en groupe suite à la consommation forcée d'alcool et de médicaments faisaient partie des méthodes de l'impitoyable docteur au même titre que les massages à l'eau glacée ou encore l'exercice physique. Mais fait unique à l'époque où seule la répression prévalait dans la lutte contre l'alcoolisme en Tchécoslovaquie comme dans le reste du monde, l'établissement que Jaroslav Skala avait d'abord appelé centre de protection a d'abord été pensé comme un lieu d'accueil. Il s'agissait d'y laisser dégriser les buveurs dans un premier temps, de leur apporter les premiers soins les plus urgents avant de proposer un traitement aux malades de longue durée. C'est ce que rappelle le docteur Petr Popov, l'actuel chef du service en charge du traitement des dépendances à l'hôpital universitaire de Prague.
La création du centre a été une réaction au fait qu'il n'existait alors pas d'établissement adapté pour les personnes qui avaient des problèmes d'alcoolisme, des conflits familiaux ou des soucis judiciaires. Ces gens avaient besoin d'être soignés. C'est donc pour eux que le docteur Skala a créé ce centre d'accueil. Il s'agissait d'une conception rare dans le monde car il n'existait dans aucun pays d'établissement d'abord sanitaire et préventif. Partout ailleurs, il s'agissait d'établissements de type répressif.
Autre particularité de ce premier centre pragois, les patients eux-mêmes étaient chargés de l'accueil des nouveaux arrivants, l'objectif étant de leur faire prendre conscience de leur état et de tous les désagréments qui en découlaient pour leur entourage et leurs proches lorsque eux-mêmes étaient en état d'ébriété. Rapidement, le concept s'est développé en Tchécoslovaquie, puis au-delà des frontières du pays. Depuis les années 1950, bien des choses ont toutefois évolué. Le nombre de ces centres d'accueil et de désintoxication a fortement diminué en République tchèque, mais ils ont laissé la place à des établissements modernes confrontés à une autre situation qu'il y a 60 ans de cela. Petr Popov compare les deux époques.
Au tout début, c'était un établissement dans lequel les patients se rendaient plutôt seuls, où quelqu'un les accompagnait lorsqu'ils n'étaient plus en mesure de marcher. Il ne s'agissait pas vraiment de patients qui avaient des problèmes de santé graves ou urgents, à la différence d'aujourd'hui où cela est très fréquent. Aujourd'hui, les personnes que nous accueillons sont souvent blessées, parfois gravement, et elles ont d'autres problèmes de santé, comme par exemple les SDF. C'est pourquoi aujourd'hui les centres doivent disposer d'un personnel qualifié et spécialisé, mais aussi être bien équipé, car nous sommes confrontés à des cas urgents.
Ce qui n'a pas changé, en revanche, est que l'alcoolisme demeure un important problème sanitaire en République tchèque. Selon les statistiques, chaque Tchèque âgé de plus de 15 ans consomme en moyenne 16,5 litres d'alcool pur par an, soit près de 3 fois plus que la moyenne mondiale. L'économiste Vladimir Russell a été nommé nouveau directeur de la Galerie nationale de Prague, une institution réunissant plusieurs grands musées d'art ancien et moderne et organisme le plus important de son genre en République tchèque. En confiant ce poste à un manager, le ministre de la Culture, Jiří Besser, a manifesté son désir de remanier les structures économiques de cette institution. Plus de détails sur le sujet avec Václav Richter.
Le directeur sortant de la Galerie nationale, Milan Knížák, est une personnalité controversée. Il dirige la galerie depuis 12 ans et ses critiques lui reprochent, entre autres, d'avoir imposé ses intérêts et ses propres œuvres artistiques dans cette institution. La presse se demande donc logiquement quelles sont les intentions du nouveau directeur, quelle est sa conception et dans quelle mesure il se départira du style de son prédécesseur. Les réponses à ces questions données à la presse par le ministre de la Culture ont été plutôt évasives.
Pan Ressel 1. června nastoupí, přebere Národní galerii během následujících 3 měsíců.
Monsieur Ressel entrera en poste le 1er juin prochain et pendant les 3 mois qui suivront, il s'installera progressivement à la direction de la Galerie nationale. Après ces 3 mois, il présentera une nouvelle conception d'ensemble de la Galerie nationale. J'insiste sur le fait que parmi tous les candidats à ce poste, c'est lui qui a présenté le meilleur projet de conception de la galerie.
Nejlepší koncepci.
L'artiste et professeur de l'Académie des Beaux-Arts, Milan Knijak, sera donc relayé par Vladimir Ressel, fondateur, sociétaire et représentant de la société de placement Lombard Advisory Partners. Interrogé sur ses intentions, le nouveau directeur se montre extrêmement prudent et très avare en déclaration pour la presse. Il se réserve maintenant un délai pour étudier la situation de la Galerie nationale et refuse de brusquer les choses.
Ce qui serait la pire des possibilités, ce serait de venir et de commencer immédiatement à imposer de nouvelles solutions. Il faut d'abord que les choses se mettent en place. Vous travaillez avec des gens qui ne sont pas habitués à des changements immédiats et rapides.
La presse, les historiens de l'art et les artistes se demandent maintenant si un économiste sera en mesure de comprendre les structures et les besoins d'une institution artistique. Ces doutes sont partagés aussi par l'historien d'art Tomáš Pospíšil.
La Galerie nationale ne peut pas être dirigée seulement avec des méthodes de management comme n'importe quelle autre institution. D'autre part, les problèmes auxquels la Galerie nationale doit faire face sont aussi des questions de management et de fonctionnement de cette institution dans son ensemble. C'est une institution qui a des problèmes financiers, qui est trop grande et se retrouve donc dans la nécessité de procéder à une restructuration.
Dans ses rares déclarations, Vladimir Ressel cherche à dissiper ses doutes. Il affirme que son expérience d'économiste pourrait être très avantageuse pour la Galerie nationale et promet de s'entourer de véritables spécialistes pour prendre des décisions qualifiées sur les problèmes artistiques de la galerie. Parmi ces spécialistes figure entre autres l'historien Vít Vlnas, directeur de la collection d'art ancien de la Galerie nationale. Toujours est-il que la situation de Vladimir Ressel ne sera pas facile et que le nouveau directeur sera étroitement suivi et critiqué par ceux qui n'ont pas confiance en lui. Le ministre de la Culture estime qu'il faut lui laisser 1 an pour qu'il puisse mettre en œuvre sa conception et convaincre de ses compétences même ceux qui doutent aujourd'hui de ses qualités.
Et c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. Dans la rubrique Panorama aujourd'hui, il sera question d'un accord franco-tchèque dans le domaine de la recherche, un accord de partenariat qui consiste à renforcer les liens entre chercheurs français et chercheurs tchèques, comme le préciseront les interlocuteurs, au micro d'Alexis Rosenzweig.
Panorama.
Panorama.
L'Académie des sciences tchèques et le Centre national de la recherche scientifique français ont signé cette semaine un nouvel accord de partenariat. Les chercheurs français étaient à Prague pour l'occasion. Francesca Gracia, la directrice des affaires européennes du CNRS, nous en a dit un peu plus sur ce partenariat franco-tchèque. On l'écoute.
Il s'agit d'un accord de renouvellement d'un partenariat. Parce que avec l'Académie des sciences tchèques, nous avons un accord de coopération scientifique qui court depuis 1993, en fait. C'était le premier accord qui a été signé, qui a été renouvelé ensuite en 2002. Et qui d'ailleurs a ses racines encore plus lointain dans le temps, parce que 30 ans avant 1993, on avait signé le premier accord de coopération scientifique qui réunissait les communautés scientifiques françaises via le CNRS et tchèques via l'Académie des sciences avec l'Académie des sciences tchécoslovaques.
Au moment du printemps de Prague, alors.
Voilà. Bon, c'est-à-dire plus ou moins au moment de... Bon, tout à fait. Et c'est probablement l'un des premiers accords de coopération scientifique qui a été conclu entre les deux pays, avant même peut-être que les États y pensent. Donc ça, c'est des accords qui ont des racines extrêmement profondes et anciennes dans le temps et qui font qu'il y a une tradition de coopération scientifique qui a été déjà depuis maintenant, si on fait le calcul, ça doit faire bientôt 50 ans de coopération scientifique entre les communautés scientifiques. Alors le nouvel accord par rapport au précédent, il a de plus qu'il tient compte du rôle nouveau que la République tchèque joue dans l'espace européen de la recherche, donc cet espace, ce marché libre de la connaissance et de la recherche qui associe donc en plus des 27 États membres de l'Union européenne, également tous les pays associés au programme cadre de coopération scientifique, donc de recherche et développement, qui est financé par la Commission européenne. Et le CNRS s'inscrit définitivement dans une démarche d'association avec tous ses anciens partenaires. On n'a pas attendu ni les déclarations de M. Busquin, effectivement, pour penser à l'espace européen de la recherche, pour commencer à le construire. Mais on veut participer à cette construction et on veut se associer aux pays de cet espace qui sont excellents dans certains domaines scientifiques pour pouvoir contribuer ensemble à la construction de cet espace. Et une autre nouveauté de cet accord, c'est qu'on a introduit en plus de 4 outils de coopération internationale qui sont ciblés par les accords précédents, qui sont des outils de plus en plus structurés, de plus en plus ambitieux, de plus en plus inscrits dans le temps. Donc on passe d'outils de 2 ans, puis il y en a un deuxième de 3 ans, et puis il y a ce qu'on appelle les laboratoires associés, qui sont des laboratoires virtuels, c'est-à-dire qu'ils rassemblent autour d'un programme scientifique comme pourrait l'avoir un vrai laboratoire de recherche, une programmation scientifique de longue durée de 4 jusqu'à 8 ans, des équipes qui restent localisées chacune dans son laboratoire d'origine, donc dans les deux pays. Mais ce nouvel accord introduit un nouveau type d'outil qui est le véritable laboratoire avec MUR, qu'on appelle unité mixte internationale, qui est une unité, comme il en existe beaucoup en France, mixte de recherche, avec une co-tutelle, à part le CNRS, qui est un organisme de recherche ou peut être aussi une université qui n'est pas française. Et cette unité mixte peut se trouver aussi bien sur le sol, en l'occurrence de la République tchèque, que sur le sol français, mais avec une co-tutelle tchèque.
Et ce sera dans quel domaine ?
Rien n'est prévu. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que ces accords de coopération scientifique ne font pas de la programmation qu'on appelle top-down de la recherche. On attend des communautés scientifiques, des projets qui sont mis en compétition entre eux et qui vont émerger si leur qualité est au rendez-vous. Donc pour l'instant, il n'y a pas de projet qui a été identifié d'unité mixte internationale, mais on a introduit l'outil pour qu'on puisse y réfléchir et que si jamais les laboratoires européens associés qui sont créés ce jour en travaillant sur la durée 4 ou 8 ans constituent le vivier nécessaire de jeunes chercheurs qui seront capables de migrer soit en République tchèque soit en France à la réciproque, en fait on crée les bases pour la constitution future d'une unité mixte internationale.
Je m'appelle François d'Olivera, je suis chargé de recherche au GANIL, c'est donc le grand accélérateur national du Lourd qui est à Caen, en Normandie.
Cet accord qui vient d'être signé entre le CNRS et l'Académie des sciences tchèques vous concerne particulièrement parce que vous allez travailler dans ce laboratoire d'unité mixte, c'est bien ça ?
Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une nouvelle collaboration, mais en fait, il existait déjà une collaboration entre la France et la République tchèque dans ce domaine de réactions nucléaires et de l'astrophysique. Et on veut amplifier cette collaboration en échangeant donc des chercheurs entre nos laboratoires, en faisant venir des chercheurs français en République tchèque pour faire des expériences dans les équipements qui existent ici en République tchèque, et puis aussi à faire venir des chercheurs tchèques en France pour travailler auprès de nos équipements en France. Donc au GANIL, nous avons un accélérateur et nous sommes en train de développer un nouveau accélérateur opérateur qui produira des faisceaux très intenses par rapport à ce qui existe aujourd'hui, donc très ambitieux.
Concrètement, vous allez être à Prague de temps en temps ou vous allez chapeauter ce programme entre chercheurs tchèques et français?
Non, on va bien venir ici pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on collabore, cette collaboration-là implique qu'on vienne discuter avec nos collègues et faire des échanges d'idées, etc. Donc on fera les deux, ils viendront en France et nous on viendra en République tchèque. Mais aussi et surtout, ici en République tchèque, il y a des équipements de qualité avec des gens qui sont très compétents et avec plein d'idées, et c'est ça qu'on veut aussi absolument exploiter et développer avec eux en collaboration. Et donc près de Prague, il y a REJ, l'Institut de physique nucléaire, avec des équipements avec lesquels on a déjà travaillé, qu'on sait être de grande qualité. Et on a un projet, on a un ensemble d'expériences qu'on veut faire, qu'on voudra faire dans les prochaines années en République tchèque. Donc on viendra aussi, non seulement pour discuter, mais aussi pour travailler, pour faire des expériences.
Quel est le langage entre vous?
Il y a d'abord, bien sûr, l'anglais, c'est le langage international. Je dois avouer que, contrairement à nos amis tchèques, qui, pour certains d'entre eux, parlent français, on a peut-être un peu plus de mal, nous, Français, à parler tchèque, mais on s'y emploie et c'est peut-être aussi... on essaye quelques mots en tchèque, avec grand plaisir d'ailleurs. C'est toujours amusant d'échanger aussi, au niveau de la culture, évidemment, avec les gens avec qui on travaille.
Combien de chercheurs sont impliqués par cet accord, en tout?
Alors, il y a à peu près 15 personnes du côté français et 15 personnes du côté tchèque. Du coup, ça, c'est pour la partie astrophysique nucléaire. Là, je connais pas le détail, mais il doit y avoir à peu près une dizaine de personnes pour ce qui s'appelle les grilles de calcul, c'est informatique, du côté français et du côté tchèque. Voilà, donc à peu près 40-50 personnes au total.
Voilà, et c'est déjà la fin pour aujourd'hui du bloc Actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention.